Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vous propose un nouvel audio avec donc un nouveau support que je vous ai envoyé hier après-midi. Donc j'espère que vous l'avez bien tous reçu. Je vais faire juste un tout petit point à titre introductif concernant les travaux, les présentations et les commentaires d'articles d'extraits de texte à rendre. Je vous l'ai déjà dit par mail, mais bon, voilà, je le répète, il n'y a rien de tel que de redire une deuxième fois encore les choses, peut-être à l'oral cette fois. Et donc un certain nombre d'entre vous m'ont déjà proposé donc les textes qu'ils vont travailler ou les extraits ou les articles qu'ils vont présenter. Donc Lauriane en fait a déjà rendu son travail à partir d'un extrait de Phonuscule dans le volume La représentation dans la philosophie contemporaine. Je lui ai corrigé, je lui ai proposé de le retravailler. Donc Lauriane, vous me direz si vous voulez le reprendre pour l'améliorer. Avant éventuellement que je puisse le partager à vos camarades, puisque l'idée ce serait de pouvoir réunir et partager tous les travaux de façon à potentialiser vos connaissances. J'ai aussi donc Paco qui m'a proposé de faire un commentaire de l'article de Claudia Serban dans l'enquête sur les représentations mentales. Jules, l'article de Pascal Ludwig, ainsi que Benjamin, ce même article. Donc vous allez être deux sur cet article, ce qui fait qu'en fait je proposerai donc à chacun une correction de l'article, de la présentation, et puis ensuite peut-être un partage à deux pour commencer, avant de partager à tous. Chinzia, donc, qui nous proposera une présentation sur la société politique de Guy Debord, la société du spectacle, dans la représentation dans la philosophie contemporaine. Eliot, l'article consacré aux sciences humaines et sociales dans ce même volume. Pablo, donc sur l'extrait consacré aux représentations théoriques et représentations mentales, le chapitre 10 dans ce même volume. Et Antonin, un travail plus synthétique sur la question d'autrui et la représentation, donc qui réunira à la fois des auteurs et des thématiques, donc un travail un peu plus ouvert. Ce qui est aussi possible, hein, j'en profite pour vous le dire, c'était sa proposition, donc Antonin, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous voulez faire ce genre de travail, c'est plus exigeant, à mon avis c'est plus ambitieux, mais c'est tout à fait jouable. Voilà donc actuellement les propositions que j'ai reçues. Vous êtes encore un certain nombre à ne pas m'avoir proposé de travail, à ne pas avoir fait de choix. Étant donné le temps qui passe, hein, nous sommes actuellement déjà le 31 mars, donc je vous ai demandé par mail, et je vous le redis, donc oralement, à m'envoyer donc votre choix avant vendredi 3 avril, de façon à vous mettre un petit peu le timing en tête, que vous ayez le temps de travailler, sachant que je souhaiterais, comme je vous le disais, ne pas recevoir toutes vos présentations en même temps. Vous comprendrez bien que pour moi, ça fera un surcroît de travail et de lecture et de correction et d'aller-retour avec vous. Aussi parce que j'ai un autre groupe d'étudiants en master dont je vais recevoir tous les travaux autour de la mi-avril. Et j'aurai beaucoup de choses à lire à ce moment-là. Il y aura à peu près une quinzaine d'étudiants en responsabilité, en mémoire, et à peu près le double d'étudiants qui suivent mon séminaire. Donc ça fait beaucoup beaucoup de travaux et j'aimerais beaucoup pouvoir vous avoir rendu vos travaux avant cette date, de façon à ne pas faire trop de travaux en même temps pour moi. Voilà, donc ceci étant dit, maintenant à vous de vous organiser. Alors concernant cette séquence audio de cours, donc je vous ai envoyé un support en 3 pages, qui est à nouveau un extrait d'un article de dictionnaire, donc dont on va parler. Concernant le cours prochain, donc le cours on est le 31, donc ce sera la semaine d'avril, donc le 5 ou 6 avril, non, 8 avril, pardon, Non, 7 avril, je vais y arriver. Donc, ce que je vais vous proposer pour cette séquence-là, la séquence prochaine, ce sera un travail de synthèse sur le thème de la représentation dans la philosophie, dans la phénoménologie française, autour de trois figures, Lévinas, Michel Henry et Jean-Luc Marion. Donc, soit je vous ferai une seule séance complète sur ce thème avec ces auteurs, soit je la dispatcherai en deux séances en fonction du temps que ça va me prendre. Mais voilà, ça vous permettra d'avoir aussi une vue non seulement du débat dans la philosophie contemporaine, sciences cognitives, philosophie de l'esprit, mais aussi dans la phénoménologie contemporaine, donc pas seulement husserlienne ou heideggerienne. Je rappellerai évidemment un certain nombre d'éléments concernant Heidegger, puisque ces auteurs, en réalité, sont aussi très nourris par la pensée de Heidegger. Ça permettra d'équilibrer un peu la thématique contemporaine de la représentation. Aujourd'hui, je vous propose en attendant un deuxième petit travail de synthèse qui est un peu parallèle et miroir du travail de commentaire que je vous avais proposé concernant le premier article situé dans le dictionnaire, donc le vocabulaire européen des philosophies édité par Barbara Cassin. Donc là, il s'agit d'un deuxième article. Le but, c'est, si vous voulez, de vous aider à rassembler des connaissances. À les mettre en relation, à les mettre en perspective, amorcer une sorte de remontée synthétique après des immersions plus analytiques dans des auteurs ou dans des aspects de compréhension de la représentation. Donc faire un travail un peu déjà de remontée synthétique et mettre en perspective différentes options, différentes compréhensions, les tester. Donc faire aussi un travail d'analyse critique de ces articles. Je l'ai fait un peu pour le vocabulaire européen en mentionnant certains partis pris, certaines limites. Donc c'est aussi pour vous permettre de prendre du recul et je vais le faire de la même manière pour cet article. Donc il s'agit de l'article intitulé Représentation dans le grand dictionnaire de la philosophie que j'imagine vous connaissez. Qui a été édité sous la direction de Michel Blais, aux éditions Larousse, au CNRS Éditions, avec une responsabilité éditoriale qui est celle de Jean-Christophe Tamisier, qui pendant très longtemps a été directeur éditorial aux éditions Armand Colin. Donc c'est un ouvrage qui est paru en 2003, donc il est un petit peu ancien déjà. Il est à peu près contemporain d'ailleurs du vocabulaire européen des philosophies. Donc c'est un état des lieux de la question d'il y a environ une quinzaine d'années. Ça donne une perspective. Hein. En même temps, le débat contemporain, plus contemporain évidemment, est intéressant à mobiliser. Ce que l'on a fait à travers les deux ouvrages dont vous avez des travaux à commenter, hein, que ce soit l'enquête sur la philosophie et la représentation mentale, les représentations mentales ou bien la philosophie dans la représentation dans la philosophie contemporaine. Juste pour indication, c'est un dictionnaire, je ne l'avais pas fait pour le premier volume de Barbara Cassin. Vous pouvez aussi aller regarder d'autres articles si ça vous intéresse, peut-être une fois que le confinement sera terminé, donc quand vous aurez plus accès aux bibliothèques, puisque vous pourrez accéder au volume. Dans ce volume en particulier, mais c'était aussi le cas dans le vocabulaire européen des philosophies. J'ai contribué personnellement avec un certain nombre d'articles. Pour ce volume, avec des articles qui sont donc sous les thèmes de l'apparition, du Umwelt, monde environnant, thématique husserlienne, mais aussi chez von Uexküll, de la thématique de l'attention, du cœur, de l'époquer, l'expérience, l'image, la ressemblance, la transposition. Donc à chaque fois, ce sont des thématiques que j'ai mobilisées à partir de la phénoménologie, puisque c'est en fait pour cela que l'on m'a sollicité. Vous irez voir aussi, peut-être dans ce dictionnaire, vous remarquerez que votre enseignante Annie Ourcade a aussi beaucoup contribué dans ce volume, à l'aide de références à la philosophie ancienne, évidemment, elle a été sollicitée sur ce terrain. Dans le volume de Barbara Cassin, j'avais aussi contribué pour présenter les articles Umwelt, Epoké, Animal et Cœur, donc il y a évidemment des parallèles selon mes intérêts et mes thématiques. Voilà, simplement peut-être pour vous indiquer des pistes de recherche ou des orientations que vous auriez envie de creuser et sur lesquelles vous pouvez aller trouver un certain nombre de références à partir de travaux de synthétiques hein, qui sont donc réunis dans ces articles. Alors, une remarque générale concernant cet article de dictionnaire, donc celui de dictionnaire Larousse, là, du grand dictionnaire de la philosophie, ce qu'on peut dire pour commencer, c'est qu'il répond à une approche généraliste, qui est celle évidemment d'un dictionnaire, peut-être davantage encore que le dictionnaire de Barbara Cassin, qui, avec son souci d'enraciner les concepts dans la langue, a une orientation un peu spécifique, hein, et originale évidemment. L'article que j'avais commenté la dernière fois, donc l'article de Jérôme Dokic, de son côté, avait une dimension très interprétative en fin de compte, donc où l'auteur émergeait davantage dans sa perspective propre, en lien aussi avec une approche plus ciblée, plus spécifique, liée à sa spécialité, donc en philosophie de l'esprit. Donc ici, dans ce dictionnaire Larousse, on a une présentation qui est plus encore, qui est plus neutre d'un certain point de vue, qui est plus généraliste, qui fait ressortir un aspect qu'on avait fait remarquer au premier semestre déjà dans mon cours, qui est l'aspect transversal de la notion de représentation. Si vous avez lu cet article ou si vous l'avez parcouru, vous avez remarqué qu'en fait, le dictionnaire est construit, l'article est construit à travers une succession d'approches qui sont déclinées, qui sont nommées souvent en abrégé, approche générale, esthétique, politique, psychanalytique, psychologique, philosophie de l'esprit, etc., philosophie de la connaissance. Et donc, toutes ces approches, finalement, qui sont présentées un peu déclinées les unes après les autres, reflètent ou font ressortir une sorte d'éclatement de la notion. Donc, on n'a pas l'ambition d'un travail vraiment de synthèse au sens fort du terme, qui chercherait à proposer par-delà les différentes approches une sorte d'unifiabilité ou d'unité possible de la notion. Finalement, ce qui nous est proposé, c'est plus un chantier, une sorte de laboratoire de travail. Alors, c'était déjà le cas dans l'approche proposée dans le premier article que je vous ai indiqué, mais avec encore une fois cette visée interprétative qui avait donc un souci d'essayer de penser l'unité de la notion malgré tout. Dans l'approche que nous avons suivie au premier semestre, on a aussi proposé cette déclinaison. Mais de mon côté, j'avais tenté de vous montrer un certain nombre de points d'unifiabilité de la notion, donc pour ne pas simplement la résumer à un ensemble d'aspects additionnés sans lien interne. Ce qui est évidemment tout l'enjeu du travail d'une notion en cours et pour un concours en particulier pour l'agrégation. Donc on verra qu'il y a une tension entre cet éclatement et la possibilité même de trouver une unité de la notion, ce qui peut-être ne va pas de soi pour cette notion de représentation par rapport à d'autres thématiques. Ce qu'on peut aussi observer dans cet article, c'est qu'on a un ajout qui est tout à fait intéressant, sur lequel je reviendrai, qui est la mention et la référence à la psychanalyse en toute fin d'article, donc qui est un point que nous n'avons pas du tout abordé et qui serait intéressant de creuser. Donc là, on en a quelques prémices. Et donc, on a toute une série d'auteurs donc, qui sont mentionnés, mais pas, comme je le disais, de recherche vraiment d'une unité de la notion pensée, comme j'avais essayé de le montrer au premier semestre, sous la référence à une approche de philosophie de la connaissance. Ce n'est pas l'enjeu direct de cet article. On verra si ce sont ses limites ou si ça apporte finalement quelque chose. Donc, comme pour l'article précédent, on a donc le même type de structure, donc un encart, un encadré étymologique, une présentation générale. Donc, dans ces deux premiers paragraphes de l'article, si vous vous y reportez, vous verrez qu'on retrouve des choses qu'on a déjà évoquées, soit ensemble, soit pour le premier article. Donc, la référence au latin, representatio, représentare, donc l'insistance sur le fait qu'il s'agit de rendre présent, donc ça c'est un point très important qui est peut-être davantage souligné ici d'ailleurs. Le rapport, donc la présence du préfixe re, qui indique donc une seconde présentation, un redoublement, ça aussi on l'avait vu, darstellung, vorstellung, avec donc le détail du sens des termes vorstellung et darstellung, sur lesquels je ne reviens pas. L'alternative pour penser la représentation comme un tenir lieu de, donc avec donc la notion aussi de fois d'un terme représentant, ce qu'on n'avait pas évoqué jusqu'à présent. Et par contre, l'absence du terme Vertretung, qui en fait est très important et qui était essentiel dans la perspective défendue par Jérôme Docky, qu'on avait aussi vu ensemble, à travers notamment la référence à Frege, ici ça n'apparaît pas. Et par contre, donc, la mention d'un terme, donc, du terme Repräsentation, qui décrit donc une relation, cette fois pensée surtout en science, entre excitation neurologique périphérique et centrale. Donc on verra que c'est quelque chose qui est repris par le point consacré donc en philosophie d'esprit à cette notion par Elisabeth Pachery dans l'article ici. Quant au petit résumé qui suit, donc là aussi on a des éléments qui sont un peu redondants par rapport à ce qu'on avait vu, donc la notion de redoublement, le rapport à l'image, donc est-ce que c'est une image, est-ce qu'il y a comment dire, en art, quelque chose qui relève donc d'une activité qui permet de penser la relation entre la chose représentée et le représentant. Mais à cela s'ajoute un certain nombre de considérations qui vont être développées dans le premier temps, qui concernent la notion d'altérité. Ça, c'est quelque chose qui apparaît, qui est nouveau, qui n'est pas développé encore dans le résumé, qui concerne également le rapport à l'absence. Donc ça, c'est un point que Franck Varenne avait évoqué dans la présentation qu'on a faite donc à la librairie Colbert, la représentation comme ce qui permet de donner accès à l'absence, de rendre présent l'absence. Donc ça, c'est une thématique, c'est vrai, qu'on a peu évoquée, mais qui est intéressante, qui va être développée dans le premier point ici, dans cet article. Et puis une référence aux stoïciens, donc j'y reviendrai parce que ça c'est aussi un élément d'histoire de la philosophie qu'on n'a pas du tout évoqué, mais certains de vos camarades qui ne sont pas sur Rouen cette année m'avaient parlé de cela déjà, notamment Céline Lejeune qui préparait au départ, au premier semestre, l'agrégation à Rennes, et qui avait eu tout un plein d'éléments de cours sur les stoïciens. Alors moi, c'est pas trop ma spécialité, ma référence, donc c'est vrai que j'avais pas souhaité le mettre au premier plan pour votre cours, mais si ça intéresse certains, plus particulièrement, peut-être vous pouvez contacter Céline Le Gouévec, et lui demander, peut-être via Mathias d'ailleurs, qui doit être en contact avec elle, lui demander peut-être des éléments de cours sur les stoïciens. En tout cas, ici, il en est question un petit peu, je le rementionnerai, simplement pour... il y a quelques références qui sont indiquées concernant la représentation. Donc ça, c'est un des points un peu nouveaux aussi de cet article en termes de référence à l'histoire de la philosophie. Je bois un petit peu, j'ai la gorge un peu sèche. Alors, la structure de l'article maintenant. Donc on a dans cet article quatre points à travers, c'est ça sa spécificité aussi, à travers quatre autrices et auteurs. Donc l'article n'a pas été rédigé par une seule personne, comme c'est le cas de l'article dans le vocabulaire européen des philosophies. Donc c'est un travail de répartition des tâches, d'une certaine façon, un travail collectif, ce qui est vraiment toujours intéressant, qui permet à chacun finalement d'avoir sa propre perspective, donc de vous confronter à une variation aussi sur des perspectives différentes, et c'est toujours intéressant d'entrer dans les perspectives de différentes personnes pour penser une notion. Donc la première, le premier temps est pris en charge par Claire Marin, qui est une jeune autrice, une jeune philosophe contemporaine qui a écrit des essais, plutôt d'ailleurs que des ouvrages universitaires, des essais très personnels qui sont vraiment intéressants concernant des épreuves existentielles, notamment je crois qu'elle a écrit un livre récent qui s'appelle La séparation, qui est très intéressant, que je n'ai pas lu mais dont j'ai entendu parler et qui a été beaucoup médiatisé. Je vous recommande sa lecture d'ailleurs, c'est vraiment un très bel ouvrage, enfin un ouvrage très difficile mais très, très dur dans le thème abordé et qui est très, très beau par ailleurs. Donc elle fait une présentation en philosophie générale et histoire de la philosophie, je vais y revenir. Ensuite nous avons donc une deuxième perspective ouverte par Elisabeth Pachery, donc on a déjà entendu son nom puisqu'elle était mentionnée dans l'article de Jérôme Dokic, donc c'est quelqu'un qui est spécialisé en philosophie d'esprit et psychologie, donc c'est celle qu'elle prend en charge à nouveau. Donc on va voir qu'il y a des retours, des choses miroirs par rapport au premier article ici. Ensuite, nous avons un troisième temps qui est pris en charge par deux auteurs, donc Morisot et Puivet, qui sont des auteurs un peu plus anciens, des professeurs de philosophie, qui sont déjà un petit peu, comment dire, qui sont à la retraite tous les deux maintenant, et qui donc consacrent un temps à l'esthétique et à la philosophie de la connaissance. Donc on va voir que les deux approches sont reliées. On verra comment. Ça peut sembler un peu curieux de prime abord, mais on verra cette alliance plus en détail. Et enfin, un quatrième temps consacré par Michel Porte, qui est psychanalyste, justement, au temps donc, de la psychanalyse. C'est assez court, ce dernier temps est assez court, assez synthétique. Il demanderait sans doute davantage d'exploration. Mais voilà, c'est une sorte de pierre d'attente, on peut dire, pour aller chercher plus loin. Alors, la déclinaison de ces différentes perspectives, vous voyez, peut vous sembler un peu déconcertante, dans la mesure où on ne voit vraiment pas, à partir des approches qui sont proposées, comment la notion va être possiblement unifiée. Et donc ça renforce, encore une fois, l'impression d'éclatement de la notion. Et ça repose la question de savoir est-ce que cette notion peut être vraiment unifiée, est-ce qu'elle a une unité interne, ou est-ce que organique, ou est-ce que finalement ce qui préside en elle, eh bien, ce sont des formes d'équivocité. Est-ce que c'est un, comme je l'évoquais dans la présentation à la librairie Colbert, à la fin de la présentation, est-ce que c'est un slippery concept, donc un concept un peu glissant, qui reste équivoque finalement, dont on ne peut pas véritablement trouver l'unité, dégager l'invariant, l'essence, comme dirait Leidos, comme dirait Husserl, sous la multiplicité des variations, dans une sorte d'eidétique dynamique? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile concernant la représentation? Est-ce que c'est un des défis de la notion? Est-ce que c'est pour ça qu'elle a été mise au concours aussi? Parce qu'elle pose un problème. Donc c'est évidemment un questionnement philosophique aussi qui est en jeu à travers cette question et cette tension. Donc je laisse la question ouverte, évidemment, puisque voilà, il est difficile de la trancher à l'heure qu'il est. Mais en tout cas, c'est important, je pense, que vous l'ayez à l'esprit et qu'elle vous serve même de guide, peut-être, d'orientation, d'exploration de tout ce que vous faites et de tout ce que vous travaillez en ce moment. Donc le premier temps, pris en charge par Claire Marin, se déploie donc en deux moments, à la suite d'un petit, une petite introduction. Donc dans le premier paragraphe qui correspond à une sorte d'introduction de sa perspective, on voit se trouver décliné à nouveau un certain nombre de conceptions de la représentation dans l'histoire de la philosophie, conceptions qui sont à nouveau un peu jetées en vrac, qui ne sont pas du tout ordonnées, organisées. Donc on a un peu le même état des lieux, une sorte de chantier. L'autrice ne cherche pas à les unifier, ces différentes conceptions. Elle a une perspective qu'on pourrait nommer descriptive, hein, c'est-à-dire qu'elle nomme les différentes perspectives sans chercher à les articuler. À travers ce qu'on peut retenir de cela, à travers d'autres des auteurs qu'on a soit déjà vus, donc sur lesquels je ne vais pas revenir, donc le champ esthétique chez Platon, la conception kantienne, ça c'est des choses qu'on avait déjà vues. Et les deux auteurs donc qu'elle souligne davantage, ce sont les stoïciens justement et Leibniz. Donc prenons finalement ces éléments, ces matériaux comme des matériaux en tant que tels et voyons ce qu'on peut en faire. Donc la référence aux stoïciens, elle est alimentée dans la bibliographie, comme vous le voyez en bas de la page 923, par une référence au texte d'Eugène Laërce, donc ce doctographe hein, qui a relaté les vies des philosophes, donc dans un volume sur les stoïciens, donc intitulé « Les stoïciens », qui est un gros volume référentiel sur ces auteurs, auquel elle vous renvoie. Et qui fait droit donc à une notion qui est déterminante chez les stoïciens, sur laquelle on va revenir, qui est la fantasia, hein, plus particulièrement. Elle renvoie aussi donc à cette citation, donc la représentation est une empreinte de l'âme, métaphore empruntée justement aux empreintes que la bague produit dans la cire. Hein. Donc c'est la notion de fantasia, plus particulièrement de fantasia, je cherche le terme, de fantasia cataleptiquée, hein, fantasia cataleptiquée, donc c'est ce qui est mentionné dès le résumé de l'article, la bonne représentation, fantasia cataleptiquée, par rapport à la fantasia toute simple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dans cette conception donc une conception qu'on pourrait nommer rétrospectivement empiriste de la représentation, avec cette notion d'empreinte qui sera aussi tout à fait déterminante dans la philosophie de quelqu'un comme David Hume au XVIIIe siècle. Donc, le fait que finalement, il y a une passivité, l'âme est passive, elle reçoit quelque chose, hein, elle est réceptive, elle reçoit un objet. Donc, c'est pas, on est vraiment aux antipodes de la conception de la représentation comme un acte, hein, ce point que j'avais beaucoup mis en avant dans mon article, mais aussi au premier semestre. Elle n'est pas une performance, elle n'est pas enactée. Hein. Moi, j'étais vraiment sur cette perspective active de la représentation. Donc là, vous voyez qu'on est aux antipodes de cela. On est vraiment dans une perspective qui considère que la représentation, c'est ce que l'âme reçoit. Hein. Elle reçoit de l'extérieur. Donc de ce point de vue-là, c'est une option qui est intéressante. Hein. Donc on est vraiment dans une perspective où le sujet est passif. Le je reçoit, et donc c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans la phénoménologie de Husserl d'ailleurs, dans un stade ultérieur de sa pensée, puisqu'il définit lui-même la passivité comme une réceptivité dans un texte des années 20 qui s'intitule Expérience et jugement. Alors, pas à propos de la représentation, donc c'est vrai que là les stoïciens restent tout à fait originaux en ce sens, et pas donc à propos de la fantasia non plus, même si Husserl, on va le voir, parle beaucoup de l'imagination dans les années 20 également, mais pas directement sous ce registre donc de la réceptivité. Donc là, je pense qu'il y a une piste vraiment intéressante à explorer. Les stoïciens et l'empirisme de Hume, la passivité de la représentation, comment l'esprit reçoit et comment cette réception est une empreinte, quelque chose qui s'imprime en moi, hein, qui fait sens à partir de l'extérieur et que je ne contrôle pas. On a aussi d'autres références qui est mentionnée dès l'introduction, une référence à Leibniz, qu'on a un peu évoquée, mais j'avoue qu'on n'a pas, c'est un des manques de ce cours sans doute, qu'on aurait pu beaucoup plus développer et beaucoup plus traiter. Parce que la question est vraiment centrale chez Leibniz, la question de la représentation à travers la notion de point de vue, hein, et de la conception du sujet comme monade, comme unité indivisible et comme unité dynamique, hein, de présence au monde. La monade, c'est vraiment cela. Donc la référence est au texte de Leibniz, la monadologie, justement. Donc vous avez deux références, deux paragraphes, deux extraits qui sont mentionnés, paragraphes 62 et 60, que je vous invite vraiment à aller lire de près, puisqu'on a là une perspective déterminante sur la représentation, comme point de vue, comme perspective sur l'univers. Finalement, le sujet tout entier est une représentation, il représente tout l'univers. On peut dire qu'on a là aussi, et d'ailleurs on avait mentionné Leibniz à ce propos, on a là une référence qui est déterminante chez Schopenhauer. Hein, Leibniz est un auteur que Schopenhauer a beaucoup lu, auquel il a consacré un ouvrage. Et donc il y a une filiation qui serait intéressante à explorer. Là encore, c'est évidemment une piste de travail, mais voilà, on ne peut pas tout faire, entre Leibniz et Schopenhauer. Donc je trace un peu des ponts, des perspectives possibles, peut-être pour des travaux de recherche futurs, pourquoi pas. Leibniz, Schopenhauer, c'est vraiment une filiation intéressante sous ce registre de la représentation. Et puis on pourrait prolonger par Nietzsche, évidemment, puisque chez Nietzsche, on l'avait vu quand j'ai abordé Nietzsche au début du second semestre, on a aussi justement ce que Nietzsche appelle lui-même un perspectivisme, hein, donc une compréhension, une théorie des points de vue, de la pluralité des points de vue, irréductible, donc inunifiable. Donc là, voilà, tout un chantier à travailler sous le registre donc du rapport à l'univers, hein, du rapport entre le sujet et l'univers, et les modalités de représentation, la multiplicité des modalités de représentation en fonction des types de monades, puisque chez Leibniz, peut-être vous le savez, il y a un certain nombre d'échelons. Toutes les monades ne seront pas identiques. Il y a des monades plus développées que d'autres, jusqu'à culminer en Dieu, mais en passant par l'esprit, l'humain, et puis des monades qui sont des monades plus primitives, animales. Donc il y a toute une gradation extrêmement intéressante, tout à fait passionnante chez Leibniz. Donc on pourrait dire qu'il y a une dynamique de la représentation qui n'est pas seulement spatiale, à travers la théorie des points de vue, mais qui est aussi temporelle, dans l'idée d'une croissance, hein, d'une évolution finalement des représentations, d'une gradation, d'une échelle. Bon, je laisse ce point de côté pour ne pas empiéter sur le reste du temps de cours, parce que l'heure passe vite. Donc ensuite, chez Claire Marin, nous avons deux temps dans sa perspective propre. Donc un temps où elle privilégie donc une approche en philosophie générale et où l'histoire de la philosophie vient se greffer et qu'elle ordonne à travers donc la compréhension de la représentation comme rendre présent l'absence. Donc ça, c'est vraiment ce qui caractérise son premier temps. Ce qu'elle nomme la seconde présence restitue la présence primitive et réelle. Est-ce que cette présence primitive et réelle qui est rendue présente à nouveau, elle mentionne cette notion de redoublement, et rend justice finalement à ce qui est primitif ou atteste d'un problème entre ce qui est représenté et ce qui est premièrement présent. Donc ça, c'est toute sa thématique. On en a finalement pas mal parlé nous-mêmes, sans forcément se référer à la notion d'absence, mais en tout cas la notion de redoublement et de relation et d'écart entre ce qui est présenté et ce qui est représenté, on l'avait pas mal travaillé. Elle met finalement son angle d'attaque, c'est le problème de la polarité négatif-positif. La représentation déforme la présence première? Est-ce qu'elle permet un excès de présence? Elle est enrichissante ou est-ce qu'au contraire elle est appauvrissante? Donc ça, c'est des points qu'on a beaucoup travaillé aussi. Elle pose la question de la ressemblance, évidemment, puisque c'est directement lié, cette question de la polarité directement liée à la ressemblance, même si elle n'est pas mentionnée, mais on peut penser que cette notion est présente dans son approche. Et elle pose la question de l'altérité, plus que de la ressemblance, de l'altérité, donc d'une relation qui fait ressortir de l'autre la représentation, et n'est-elle pas autre que la présence première? Quelles sont les modalités de cet autre, de cette altérité? Je développe un tout petit peu, c'est pas autant travaillé dans ce paragraphe, mais est-ce que finalement là, on pourrait se poser la question ainsi, et c'est un peu la façon dont la phénoménologie contemporaine va le penser. J'anticipe un peu sur la prochaine séance. Est-ce que la représentation est réductible à la présence première, ou est-ce qu'elle est irréductible? Est-ce qu'elle déborde la présence première? Est-ce qu'elle fournit une altérité d'un autre type qu'on ne peut pas réduire à une présence première? Ça, ce sera vraiment un des nerfs de la compréhension de la phénoménologie contemporaine, donc à travers les perspectives de Lévinas, Michel-Henri et Marion. J'y reviendrai. C'est amorcé ici à travers cette notion d'altérité qui apparaît, en fait, on n'avait pas vraiment vu jusqu'à présent. Elle apparaît, elle est mentionnée par Claire Marin, même si elle n'est pas complètement élaborée par Claire Marin ici. Alors, après, les notions qui sont aussi, les thèmes qui sont abordés, esthétiques et politiques, sont un peu marginaux, donc je les laisse de côté. Mais en tout cas, ce qui ressort donc dans sa perspective, c'est dans un deuxième paragraphe, intitulé « Représentation et connaissance », la question de la vérité de la représentation. On comprend évidemment que ça découle directement de la question qu'elle se pose de « est-ce qu'on peut réduire la représentation ?» la présentation à la représentation. Quel est le périmètre de connaissance qui est disponible, du coup? S'il y a une vérité, est-ce qu'elle est délimitée, la vérité de la représentation, ou est-ce qu'elle, si elle déforme, elle va introduire de l'erreur, hein? Vous voyez, on est vraiment dans cette perspective-là. Ce qui l'amène à repositionner la question sur un plan métaphysique, ou de façon un petit peu scolaire peut-être, un peu rapide, un peu simple, elle fait ressortir donc les positions idéalistes et réalistes, l'idéalisme et le réalisme, où finalement l'idéalisme est posant finalement le cadre en termes de représentation comme rendant compte de l'être, donc le sujet étant l'instance qui représente et qui représente pleinement ce qui est représenté. donc avec une sorte de cohérence, de vérité, d'adéquation, on pourrait dire, alors qu'au contraire, le réalisme pose la question d'un être au-delà de la représentation, donc l'être prenant la figure de l'objet dans le réalisme, et donc d'une irréductibilité de la représentation par rapport à des dimensions qui l'excèdent, et ici il s'agit de l'objet et de l'être. Donc vous voyez que ce débat métaphysique, idéalisme-réalisme, pose la question de savoir si tout est représentable, peut-on tout représenter, et cette question métaphysique, elle sera reprise à nouveau frais, et là j'ajoute ce point qui n'est pas pensé par Claire Marin ici, sera joué à nouveau frais dans le cadre d'une des options phénoménologiques contemporaines, à travers la notion d'altérité justement. Qui n'est pas présente dans ce débat métaphysique idéalisme-réalisme, mais qui finalement fournit la clé d'entrée de la phénoménologie contemporaine. Donc là, vous voyez, si on pousse un peu à bout, si on va plus loin, si on explicite ce que propose Claire Marin, on débouche vraiment sur des questions importantes et intéressantes. J'en viens maintenant au deuxième temps de l'article, donc qui est pris en charge par Elisabeth Pacherie. Donc cette autrice qu'on a déjà rencontrée la dernière fois dans l'article précédent. Cette fois, on a affaire à une approche qui est quasiment antipodique de celle de Claire Marin, d'ailleurs, qui n'est pas généraliste, qui n'est pas ancrée dans l'histoire de la philosophie, mais qui se centre de manière très exclusive et délimitée et ciblée sur donc des questions internes à la philosophie de l'esprit, et à la psychologie. Donc finalement, ce temps-là est très parallèle au temps de l'article de Jérôme de Kick. C'est une approche très délimitée, très ciblée, avec un concept de représentation qui est très, très unifié, mais dans son mode propre, hein, dans son secteur propre. Donc il n'essaye pas de prendre en charge l'ensemble de la notion, mais simplement un de ses aspects, et qui se centre sur cet aspect. Donc la représentation, c'est sa force et c'est aussi évidemment sa limite. Ici, la représentation est entendue exclusivement comme référence à, comme renvoi vers, comme relation. Et cette relation, elle est nommée à travers un concept qui est pris en charge d'emblée par l'autrice, qui est le concept d'intentionnalité. Et qui lui permet d'essayer de cerner, de penser la nature de cette relation. Comme référence à, comme renvoi vers. Alors évidemment, cette notion, elle est très importante, la notion d'intentionnalité. Ce qui est peut-être un peu complexe, et là je vais évidemment entrer dans un travail un peu critique ici, ce qui est complexe, ce qui est problématique peut-être dans cette façon de penser la référence à, le renvoi vers, la relation à partir de la notion d'intentionnalité, c'est le fait que cette notion ne soit absolument pas référée ni à Franz Brentano, donc ce psychologue de la fin du 19e siècle qui a construit le premier cette notion, le philosophe empiriste viennois, maître enseignant de Husserl comme de Freud d'ailleurs, mais plus encore également que cette notion ne soit absolument pas référée, la notion d'intentionnalité, à la phénoménologie, alors qu'on sait qu'en fait Husserl a vraiment fait de ce concept d'intentionnalité un concept méthodique central pour repenser la conscience, non pas comme clause sur elle-même, comme intériorité et réflexion, mais comme dynamique d'ouverture au monde et aux objets. Alors cette absence, elle est étrange, évidemment elle reflète, elle n'est pas du tout, c'est pas un oubli, hein. Elle reflète bien entendu un parti pris philosophique, mais elle est un peu gênante dans la mesure où elle gomme finalement une généalogie, elle gomme une dynamique d'inscription dans l'histoire de la philosophie, elle fait comme si ce concept venait de nulle part, comme s'il n'avait pas d'ancrage, pas d'histoire, pas de problématique. Et c'est un peu, de façon générale, vous le savez, j'imagine, déjà, le problème que rencontre la philosophie de l'esprit en général, cette approche qui est très peu enracinée historiquement, ou quand elle le fait de manière un peu hors histoire, hors cadre, à travers la construction d'un problème, mais qui semble un peu hors sol. Donc là, évidemment, c'est, à mon avis, un problème majeur que rencontre le texte d'Elisabeth Pacherie ici, ce qui n'était pas le cas de Jérôme de Kick, hein, qui, vous voyez, était très ancré dans l'histoire. Donc tous les philosophes de l'esprit n'ont pas cette caractéristique. Certains sont, dès l'instant où ils sont aussi familiers d'histoire de la philosophie et prenant des ressources dans d'autres approches, ils peuvent très bien avoir une plus grande ouverture. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, après les critiques, c'est en fait la mise en scène de la perspective de Charles Sanders Peirce. Donc, c'est un auteur que nous n'avons pas non plus abordé, encore un auteur absent. Mais là, c'est vraiment intéressant de voir qu'elle y fait droit. Alors, c'est une petite vignette, hein, ça demanderait à être développé. On est dans un article de dictionnaire, hein, donc on ne peut pas évidemment exiger une approche très approfondie. Mais la position de Charles Sanders Peirce, donc ce fondateur du pragmatisme au XIXe siècle, et aussi d'une théorie sémiotique et sémantique tout à fait originale, eh bien, est ici pris en charge. Et en fait, ce que fait Elisabeth Pacherie, de manière assez simple, évidemment, et ça demanderait des prolongements, elle restitue une classification qui est célèbre chez cet auteur, la classification donc tripartite, donc entre l'icône, l'index et le symbole. Ces trois notions étant des variations qui permettent de décrire des modalités de la relation justement entre le représentant et le représenté. Des modalités de la, de, donc des modalités de cette relation autour d'une question centrale qui est le problème de la ressemblance, qui est ici au centre de la nature de la relation. Quels sont les degrés de ressemblance, quelles sont les limites de la ressemblance entre ce qui est représenté et ce qui représente? Est-ce qu'il y a une identité naturelle, une conformité, une adéquation? C'est le cas de l'icône pour Peirce. Ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qui relève de la convention et de l'arbitraire et de l'écart? C'est le cas du symbole, selon lui. Et l'index apparaît comme une sorte de moyen terme, de position intermédiaire entre quelque chose qui serait une identité forte et quelque chose qui est une convention, donc qui ménage de l'arbitraire et de l'écart. Donc là, on a une classification qui est vraiment intéressante et Peirce finalement comment dire, définit les termes à nouveau frais, hein, puisque la notion d'icône et de symbole, notamment, ce sont des notions qui sont très lourdes dans l'histoire de la philosophie et aussi dans l'histoire de la théologie. Hein, la distinction entre l'icône et l'idole, c'est tout un champ en soi. Évidemment, ça renoue avec des problématiques qu'on pourrait inscrire dans l'histoire de la philosophie. Mais bon, là, on a une perspective qui est propre à Peirce et qui peut être utilisée en tant que telle. C'est assez intéressant à titre pédagogique. Je pense ici à Mathias, si vous n'avez pas encore travaillé cet auteur, peut-être vous pouvez aller rechercher des éléments pour l'agrégation sur cette classification. Elle est très utile à utiliser, à reprendre en charge de manière assez simple. Quant au dernier paragraphe, donc toujours dans ce point pris en charge par Elisabeth Pacherie, pardon, il est à vrai dire assez dense, un peu obscur, un peu compact. À mon avis, il est insuffisamment explicatif, trop interne à la philosophie de l'esprit, à travers la distinction et l'opposition qu'elle ménage, et qui n'a pas de lien finalement avec ce qui précède. Donc, on a un peu du mal à se repérer entre un sens, deux sens finalement de la relation intentionnelle, qu'elle pense donc de façon étroite, comme je disais, deux modes de relation, deux fonctions de la représentation, un sens inférentiel, où on induit, on prend, on fait droit à l'intention essentiellement, et un sens causal qui prend appui d'abord de plus précisément sur la référence, donc sur la relation à l'objet. Donc on pourrait retrouver ici finalement une polarité sujet-objet. Quel est le poids de l'objet? Quel est le poids du sujet? Est-ce que c'est plus de l'ordre de l'inférence, donc du sujet qui prend en charge finalement la représentation? Quand c'est plus de l'ordre de la référence ou de la cause, on serait plus du côté de l'objet. Mais voyez, tout cela n'est pas très explicité, donc voilà, c'est difficile de se frayer un chemin interprétatif à travers ce paragraphe. Je préfère le laisser de côté. Il faudrait en fait aller regarder vraiment les références qu'elle donne de façon très précise et ce qu'elle ne travaille pas elle-même. Donc évidemment, c'est possible de le faire. Ça demanderait beaucoup plus de temps. Donc je préfère avancer un tout petit peu pour pas déborder mon timing qui est déjà largement entamé. Ensuite, nous avons un troisième temps qui est pris en charge donc par ces deux auteurs, Jacques Morisot et Roger Puivet, ces deux professeurs de philosophie, autour d'un champ donc un peu dédoublé ou pensé ensemble, donc l'esthétique philosophie de la connaissance. Alors ça s'annonce comme très large et très ouvert. En réalité, on va se rendre compte que, un peu comme Elisabeth Pacherie, eh bien la notion elle est extrêmement délimitée, elle est très ciblée. Et elle est pensée autour donc de la substitution, du tenir lieu, donc de ce qu'en allemand on appelle Vertretung, qui est donc ici pensé à travers donc ce qu'on appelle aussi le lieu tenant, hein, tenir lieu, lieu tenant, en latin le locum tenens, celui qui remplace, hein, celui qui prend la place de. Donc on a vu déjà cette conception pensée à travers essentiellement le champ politique. Mais ici, ce champ politique n'est pas du tout mis en scène, curieusement. Et en réalité, il est pensé, cette notion de substitution de lieutenance, est pensée à travers essentiellement le débat esthétique, un débat esthétique. Donc à nouveau, vous voyez que la question de la ressemblance est mise au centre. Mais ce débat est instruit et construit, et ça c'est assez original. Donc à nouveau c'est très étroit, mais c'est original ici il me semble. Il est pensé à travers un débat critique donc qu'on a déjà vu chez Claire Marin à travers donc la valorisation ou la dévalorisation de l'identité. Est-ce que ça déforme? Est-ce que ça permet de penser, de nourrir davantage? Mais ici, c'est pensé dans le cadre d'un débat en philosophie de l'esprit, à nouveau. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la même perspective qu'Elisabeth Pacherie. Mais une discipline qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle l'esthétique analytique ou la philosophie analytique esthétique, et qui permet de repenser, ça c'est vraiment un point intéressant, qui permet de repenser la ressemblance comme une condition nécessaire, mais non suffisante de la représentation. Donc ça, c'est vraiment un point important. La ressemblance comme condition nécessaire, mais non suffisante de la représentation. Et cette perspective, elle est pensée à travers le travail d'un auteur qui est mentionné en bibliographie, que vous avez peut-être rencontré, qui est Goodman, et qui donc a écrit un ouvrage, a écrit plusieurs ouvrages, mais il y en a un notamment qui est intéressant sur ce terrain, qui s'appelle donc Languages of Art, langage de l'art, donc dans la traduction française. Et qui permet donc de délimiter finalement la relation entre représentation et ressemblance. Alors ici, dans l'article, de manière très pédagogique, en fait, les auteurs donnent deux contre-exemples intéressants pour montrer qu'on ne peut pas simplement identifier ou faire s'équivaloir ressemblance et représentation. Ils donnent deux contre-exemples, notamment, hein, le contre-exemple des jumeaux, l'expérience des jumeaux, où on a une ressemblance qui peut être maximale, qui parfois n'est pas complète, hein, en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de la similarité, mais où la problématique de la représentation n'est pas du tout, voilà, n'est pas du tout convoquée, hein. Donc on a des exemples de ressemblance sans représentation, les jumeaux. Et puis, à l'inverse, on a des exemples, et un exemple qui est donné, donc l'exemple de l'ambassadeur. Donc là, on est plus sur le terrain justement du porte-parole, du lieutenant au sens politique, ou en tout cas de celui qui parle au nom d'eux, donc perspective qu'on avait vue à travers Hobbes notamment, où on a une représentation qui ne met pas du tout en scène le problème de la ressemblance. Il n'y a aucune ressemblance finalement entre celui qui, le député aujourd'hui par exemple, qui porte la parole du peuple. Il n'y a pas de ressemblance. Hein. On n'est pas dans un processus d'identité ou de similarité, de contenu d'aucune sorte. Donc ça c'est intéressant à titre pédagogique, hein, ça c'est caractéristique aussi de la philosophie de l'esprit qui aime bien justement mettre en scène des questions et les penser à travers des contre-exemples. C'est aussi une démarche proprement philosophique et c'est vraiment intéressant en ce sens. La question qu'on peut se poser à partir de là, c'est quand même de se demander si finalement le concept de représentation qui est pensé comme similarité de contenu, jusque dans des formes extrêmes d'identité, est-ce que c'est finalement le concept le plus intéressant pour penser la représentation? Ou est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à mettre en scène une autre notion qui permettrait peut-être d'éviter de se poser toutes ces questions et de construire des problèmes un peu factices à travers la notion d'analogie chez Kant dans la troisième critique, dans la critique de la faculté de juger. La notion d'analogie, on l'a vu au paragraphe 59 de la troisième critique, qui permet justement de penser comment dire, une mise en relation des notions. Sous l'hétérogénéité des contenus. Hein, c'est-à-dire que dans ce paragraphe, vous vous souvenez très bien que Kant met en relation des régimes politiques et des dimensions mécaniques ou organiques des objets ou du vivant.
Donc, a priori, il n'y a aucune il y a une hétérogénéité des contenus, il n'y a aucune relation de ressemblance entre les termes, mais pourtant, ce qui est pensé, c'est la ressemblance, c'est l'identité de la relation sous le contraste des contenus. Donc, la notion d'analogie, en sens, c'est un concept opératoire extrêmement puissant pour penser la représentation et pour la penser de manière juste, et peut-être pour se débarrasser de problèmes ou de complications qu'on mentionne si on s'en tient à une conception de la ressemblance comme identité sans de contenu purement et simplement, qui évidemment est très limité. Donc voilà, cette référence à l'analogie chez Kant, à mon avis, c'est vraiment une pièce manquante du dispositif qui est ici mis en scène en esthétique analytique. Et évidemment, c'est aussi peut-être une difficulté qui est liée à la non-prise en charge d'une généalogie en histoire de la philosophie. Ce qu'indiquent ces auteurs de façon intéressante, à travers notamment la référence à un auteur relativement contemporain, donc qui est Wolheim, donc qui est mentionné donc aussi dans la bibliographie, donc qui a écrit entre les années 60 et les années 90, essentiellement en esthétique et en peinture, hein, painting as an art, dessiner un objet. Ce qu'apporte cet auteur de façon intéressante, c'est une extension du sens de la ressemblance. Donc là, on va un peu dans la direction que j'évoquais, à travers donc le concept d'analogie, même si Kant n'est pas mentionné non plus ici. Une extension du sens de la ressemblance à travers la référence à la perspective en peinture, à travers la référence à la peinture abstraite, qui sont des cas de figure où justement on fait ressortir un écart, on fait ressortir une non-ressemblance. Dans la peinture abstraite, finalement, il n'y a pas de référence à un objet qu'on pourrait identifier, donc il n'y a pas de ressemblance. Et pour autant, il y a bien une relation, hein, il y a bien une relation entre, par exemple, ce que montre Bacon dans ses tableaux, hein, qui sont par exemple des tableaux où il n'y a pas grand-chose, il y a juste du bleu. Donc il nous donne une représentation de son réel, du réel qui peut être son réel interne, son réel psychique, mais qui est aussi le réel qu'il voit, hein, le support physique. Donc il n'y a aucune ressemblance de contenu, et pourtant il y a bien une structure de relation. Pour prendre un exemple vraiment un peu extrême. Donc en fait, du coup, on voit que la conception de Wolheim, elle est quand même, à mon avis, largement alimentée par la référence à un concept comme celui d'analogie chez Kant, mais ça n'est jamais mentionné. C'est un peu dommage. En dernière instance, dans ce passage donc, sur l'esthétique analytique, le dernier paragraphe propose deux conceptions opposées de la représentation, organisées autour d'une conception psychologique d'un côté ou une conception sémiotique de l'autre. Donc c'est une façon d'identifier deux pôles pour penser la représentation. La conception psychologique, eh bien, elle nous oriente vers ce qu'on connaît déjà, donc ce qu'on a déjà vu, à savoir penser la représentation comme un état interne, comme une intention, comme l'attitude du sujet. Donc par exemple, ça pourrait être, si on reprend la référence à Bacon, ça pourrait être finalement comment, quand le tableau que je vois, donc un aplat de bleu ou un aplat de couleurs indéterminées chez d'autres peintres contemporains, ou par exemple, je ne sais pas, certains tableaux de Kandinsky ou de Miro, qui font simplement appel à des aplats de formes et de couleurs sans qu'on puisse véritablement repérer quoi que ce soit de connu, à part les formes et les couleurs, témoignent de l'état interne, de l'état de l'attitude du sujet, de son paysage intérieur, on pourrait dire. Ça, ce serait la conception psychologique. La conception sémiotique, en revanche, donc dans cette esthétique analytique, eh bien, c'est ce que finalement ce qui correspond aux symboles qui sont interprétés et qui permettent donc de dégager un système de signes, de faire ressortir des conventions qui sont acquises et qui se manifestent à travers. Si je reprends la référence au tableau, par exemple à travers un tableau de Kandinsky, on voit apparaître un certain nombre de formes, de figures, de mises en relation, un réseau de signification, hein, qui va avoir sa cohérence et son autonomie en tant que telle. Donc évidemment, cette opposition, elle est intéressante pour penser à la représentation. Et elle permet donc de faire émerger un débat interne à l'esthétique analytique autour de l'image et de sa capacité ou non à tenir lieu et jusqu'où du support physique. hein, à être le lieutenant du support physique. Donc ça interroge toujours et encore finalement la nature de la représentation, quelles sont les stratégies finalement de cette, des modalités de la relation entre le représentant et le représenté. Donc en soi ce débat est intéressant, mais simplement à nouveau, et ma critique est un peu récurrente, hein, voilà, elle est un peu peut-être ressassante, il me semble que c'est dommage qu'il n'y ait pas un ancrage historique dans l'histoire de la philosophie de ce problème de la philosophie de l'esprit, comme si finalement ces auteurs avaient découvert tout ex nihilo. C'est un peu la poule qui découvre un couteau, enfin, elle n'a jamais vu ça de sa vie, or finalement plein de gens ont manié des couteaux avant elle. Donc d'autres le pensaient avant, et donc encore une fois, donc la référence à mon avis à Kant dans la critique de la faculté du jet, elle est centrale et il faudrait vraiment la mettre en scène et la mettre en, quitte à la situer et à montrer peut-être les différences et les limites de Kant par rapport à cette problématique d'esthétique analytique. Mais alors peut-être que vous avez eu l'occasion de travailler ça avec avec Nicolas Rialan. En tout cas, ce serait intéressant de lui poser la question. Je tends une perche. Et puis une autre référence qui est plus proche de mes intérêts, mais qui là aussi est totalement manquante et qui demanderait vraiment être articulée à ce débat en esthétique analytique, et à cette conception et à cette théorie de l'image et à la nature de la relation entre le représentant et le représenté, c'est la théorie de l'imagination qu'on trouve chez Husserl, qui correspond à un cours déjà finalement très ancré dans l'histoire de la philosophie, puisque c'est un cours de 1904-1905, qui est consacré justement à des modalités d'image et d'imagination à travers deux concepts centraux chez Husserl, qui sont donc ce que Husserl appelle la Bildbewusstsein, la conscience d'image, das Bild, c'est l'image, la forme, Bildbewusstsein, la conscience d'image, et ce qu'il appelle par ailleurs la fantasie, donc du terme grec fantasia, hein, donc là on voit un ancrage évidemment dans le terme grec, mais bon, chez Husserl, le rapport à la Grèce est toujours un petit peu second. Ce qui est plus intéressant, c'est ce que Husserl fait de ces deux notions et comment il les pense par rapport à l'expérience du sujet. Et donc rapidement, on a chez Husserl une cartographie finalement de la nature de ces relations entre représentés et représentants à travers trois notions qui émergent en fait de ces deux concepts. La Bildbewusstsein chez Husserl est articulée entre ce qu'il appelle le Bildobjekt et le Bildsubjekt, donc l'objet-image, Bildobjekt, et le Bildsubjekt, le sujet-image. Donc il pense de façon très précise en réalité ce qui va distinguer dans la représentation le support physique de la perception par le sujet de l'objet. Donc le support physique, ça va être le Bildobjekt, c'est-à-dire le support de la représentation, l'objet image. Donc par exemple dans un tableau, eh bien ça va être le Bildobjekt, ça va être le tableau lui-même, la forme physique du tableau, le cadre par exemple. Alors que le Bildsubjekt, eh bien ça va être la perception qu'a le sujet de ce tableau. C'est-à-dire comment le sujet perçoit ce tableau. Que cette perception soit psychologique, donc soit son paysage intérieur, ou soit l'interprétation qu'il en fait, et on est toujours dans le Bildsubjekt. Donc vous voyez ici les deux conceptions opposées en esthétique analytique, donc conception psychologique, conception sémiotique, elles sont rassemblées dans ce que Husserl appelle le Bildsubjekt. Et puis à ces deux notions, Bildobjekt, Bildsubjekt, qui pensent la relation, qui permettent de penser de manière descriptive la relation entre le sujet qui perçoit et l'objet qui est perçu, donc dans le cadre d'une image, eh bien on a une troisième notion qui est la fantasie, qui est chez Husserl le mode imaginatif, hein, c'est-à-dire la manière dont le sujet vit en fait l'image. Pas seulement donc la perception qu'il a de l'objet, mais les modalités, les qualités en fait de vécu qui correspondent aux qualités de l'image, de son imaginaire à lui, par distinction d'avec la perception. Ce qui permet de définir une intentionnalité qui, chez Husserl, va être pas seulement perceptive, mais imageante, productrice d'images. et qui donc correspond aux qualités, aux propriétés de l'image vécue par le sujet. Donc là, on a finalement trois pôles qui sont à tenir ensemble. L'objet image, le support physique, le sujet image, la perception de l'image par le sujet, de l'objet image par le sujet, et les qualités propres, le vécu finalement de l'image, les propriétés de l'image, du mode imaginatif. Donc le fait que l'imagination peut être flottante, par exemple, elle peut avoir une qualité de flottement, elle peut avoir une qualité de précision, de focalisation, elle peut avoir une dimension affective, elle peut être nourrie par le souvenir, elle peut être onirique, elle peut être... Vous voyez, toutes les modalités, tous ces vécus d'image, eh bien, c'est ce que Husserl appelle la fantaisie. Donc là, on a quelque chose d'extrêmement voyez, complexe. Et qui évidemment demanderait à être articulé à ce débat contemporain en esthétique analytique. Alors j'en viens pour terminer de façon plus rapide au dernier temps de cet article qui donc est consacré à la psychanalyse, donc à travers la parole de Michel Porte. Donc c'est un temps conclusif assez court qui demanderait bien sûr à être développé en travaillant notamment chez Freud la notion de fantasme et son analyse des rêves, notamment dans l'ouvrage « L'interprétation des rêves » et la conception freudienne très connue du rêve comme réalisation d'un désir. Donc ce serait vraiment très intéressant d'aller regarder justement la conception que Freud propose des images psychiques hein, du sujet dans le cadre de la dimension onirique. Et là, on serait aussi en connexion avec les qualités vécues du mode imaginaire chez Husserl, notamment dans le cadre de l'imagination onirique, mais pas seulement. Donc ça, c'est un point que Michel Porte n'aborde pas. Mais par ailleurs, elle propose une perspective qui est assez novatrice, puisqu'elle va s'intéresser justement aux propriétés de la représentation psychique. Donc vous voyez, là aussi, on est tout à fait en phase et en résonance par rapport au mode de la fantaisie chez Husserl. Et notamment, elle donne deux propriétés spécifiques finalement de la représentation psychique, dès lors que cette représentation elle n'est pas directement conscientisée, mais qu'elle est finalement dans le soubassement de la conscience, dans ce que Freud appelle le préconscient et l'inconscient, enfin dans la première topique en tout cas. Ces deux propriétés donc de la représentation psychique inconsciente, eh bien, c'est d'une part l'énergie, la notion d'énergie ou de force. Donc on a quelque chose qui est très dynamique dans finalement dans la façon dont l'inconscient circule. Et donc c'est très distinct en fait de la conception donc d'une propriété de la représentation comme état ou comme référence à l'objet. Vous voyez, on n'est vraiment pas du tout dans cette polarité sujet-objet, état interne, référence à l'objet. On est bien en deçà, on est dans quelque chose de beaucoup plus primaire, hein, c'est vraiment les processus primaires du psychisme chez Freud. Donc cette première propriété, donc cette notion d'énergie ou de force finalement de la représentation, et deuxième propriété qui va de pair avec cette première propriété, c'est la notion de conflit, qui donc correspond finalement, permet de comprendre toute la théorie du refoulement chez Freud, et donc le fait que... tous les processus primaires qui ont lieu en moi sans que j'en ai conscience, donc dans mon inconscient, eh bien vont être à un moment donné sélectionnés et ne vont pas émerger à la conscience. Donc vous restez en deçà. Il va y avoir donc un conflit entre ces différentes forces. Et le refoulement, eh bien, c'est ce qui permet une économie finalement du sujet, qui lui permet donc de ne pas être envahi par toutes sortes de pensées et de processus qui le déborderaient et qui sinon risqueraient de créer des pathologies ou des névroses dans le cadre de la pensée de Freud, qui serait un envahissement finalement, une invasion des représentations. Donc ces deux concepts, énergie et conflit, sont vraiment déterminants pour penser une représentation psychique non consciente. Alors évidemment, ça ouvre la voie à beaucoup de questions et on pourrait développer beaucoup plus ce point. Ce que ça peut nous donner à penser aussi, c'est un point qu'on n'a pas beaucoup évoqué, qui est les pathologies de la représentation. Dès l'instant où l'esprit est encombré par finalement toutes sortes de pensées, de processus qui ne sont pas régulés et qui finalement sont en permanence en train de le déborder. La théorie du refoulement chez Freud, c'est justement une manière de redonner à l'esprit une économie de pensée, et au psychisme de lui permettre de canaliser finalement les pensées, donc certaines sont systématiquement mises de côté. Mais quand ça ne se produit pas, évidemment, ça peut produire des névroses, ça c'est ce que Freud analyse, et plus avant, ça peut aussi produire des psychoses, puisqu'en fait, à l'époque de Freud, la distinction névrose-psychose, il la met en place, mais les psychoses seront ensuite prises en charge davantage par ce qu'on appelle la psychiatrie, et pas par la psychanalyse. Et dans le cas d'un débordement extrême, la psychose qui est la schizophrénie est justement un cas de figure où la personne va être envahie, par exemple, par des voix, donc par un certain nombre de représentations qui se manifestent de façon sonore, mais ça peut être aussi par des hallucinations, donc des représentations qui vont se manifester de façon visuelle et qui correspondent à des dimensions sensorielles, sonores ou visuelles, finalement, qui sont présentes pour la personne, dans l'esprit de la personne, mais qui, pour d'autres personnes, objectivement, ne sont pas présentes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire simplement que la perception qu'a cette personne schizophrène n'a pas de possibilité d'être mise en relation, d'être partagée avec d'autres, ce qui laisse à penser que c'est vraiment ce qu'elle vit, elle, de l'intérieur d'elle-même, sans que ça ait une réalité objective directe. Donc, c'est évidemment, ça, ce serait un point qui serait très intéressant à étudier davantage pour penser des représentations psychiques non objectivables ou non objectivées. Donc une sorte d'extrême, si vous voulez, de la représentation subjective non consciente. Point évidemment extrêmement intéressant, passionnant, mais que je vais devoir abréger pour le temps de cet audio. En conclusion, vous voyez que cet article offre énormément de perspectives intéressantes. C'est en même temps un article très hétérogène. Vous voyez ressortir au fil de ce que j'ai pu vous proposer donc une ligne de force qui est celle de la ligne de force de la ressemblance. On voit que l'article tourne autour de cette question de la ressemblance sans vraiment, à mon sens, la stabiliser. Et je dirais en raison de références non explorées malheureusement à la troisième critique, vous aurez compris que c'est le Kant, à mon avis, est le grand absent de cet article, mais aussi à la dioptrique chez Descartes, parce que je pense que là on avait des ressources conceptuelles intéressantes pour repenser la perspective. Cependant, cet article fait appel à des références qui sont extrêmement intéressantes, notamment donc les stoïciens, Leibniz et donc la psychanalyse psychiatrique jusqu'à donc la schizophrénie. À propos de la schizophrénie, je vous renvoie à un petit texte de Jean Naudin qui s'intitule tout simplement « La schizophrénie » qui pourrait peut-être vous fournir des éléments de compréhension supplémentaires. Ce qu'on peut dire pour terminer, c'est que cet article, je repose la question d'un point de vue philosophique, critique. Cet article donc manifeste vraiment donc l'éclatement de la notion de représentation. Est-ce que c'est le dernier mot sur la notion? Est-ce que finalement on va en rester à cet éclatement en se disant qu'en fait on ne pourra pas de toute manière trouver une unité, une unifiabilité de la notion? Ou est-ce qu'on peut malgré tout quand même s'attacher à définir des propriétés invariantes de cette notion? Et à mon sens, il y en a quand même quelques-unes qui ressortent. Je pense que, encore une fois, l'analogie est une notion essentielle pour essayer de penser la représentation. Je pense aussi que la relation sujet-objet est un curseur qui permet de déterminer les modalités de cette analogie. Et je pense que la troisième grande notion qui permet de penser la représentation, c'est l'intentionnalité. Si on la pense de façon suffisamment large pour prendre en coupe les perspectives contemporaines, à savoir donc la phénoménologie d'une part, la philosophie de l'esprit d'autre part. Et sans doute, il faudrait greffer à cette notion d'intentionnalité, ce sera l'enjeu de la prochaine séquence de cours audio que je vous proposerai, la notion d'altérité, qui est mentionnée juste en passant au début de l'article par Claire Marin, mais qu'il faudrait fortement articuler à la notion d'intentionnalité ici, pour vraiment faire résonner cette notion de représentation dans ses limites, et dans sa capacité finalement, dans sa portée cognitive et dans sa portée critique. Voilà, j'ai un peu débordé mon timing.